Jules Verne, L'île à Hélice, première partie, chapitre 12. Trois semaines au Pomotou. En vérité, le quatuor ferait preuve d'une révoltante ingratitude envers Callistus Menbar s'il ne lui était pas reconnaissant de l'avoir, même un peu traîtreusement, attiré sur Standard Island. Qu'importe le moyen dont le surintendant s'est servi pour faire des artistes parisiens les hôtes fêtés, adulés et gracieusement rémunérés de Millière City. Sébastien Zorn ne cesse de bouder, car on ne changera jamais un hérisson au piquant acéré en une chatte à la moelleuse fourrure. Mais Iverness, Pinchina, Frascolin lui-même n'aurait pu rêver plus délicieuse existence. Une excursion, sans danger, ni fatigue, à travers ces admirables mers du Pacifique. Un climat qui se conserve toujours sain, presque toujours égal, grâce au changement de parage. Et puis, n'ayant point à prendre parti dans la rivalité des deux camps, accepté comme l'âme chantante de l'île à hélice, reçu chez la famille Tancardon et les plus distingués de la section babordaise, comme chez la famille Coverley et les plus notables de la section tribordaise, traité avec honneur par le gouverneur et ses adjoints à l'hôtel de ville, par le commodore Simcoe et ses officiers à l'observatoire, par le colonel Stewart et sa milice, prêtant leur concours aux fêtes du temple comme aux cérémonies de Sainte Marie Church, trouvant des gens sympathiques dans les deux ports, dans les usines, parmi les fonctionnaires et les employés, nous le demandons à toute personne raisonnable, nos compatriotes peuvent-ils regretter le temps où ils couraient les cités de la République fédérale, et quel est l'homme qui serait assez ennemi de lui-même pour ne pas leur porter envie ? Vous me baiserez les mains, avait dit le surintendant dès leur première entrevue. Et s'ils ne l'avaient pas fait, s'ils ne le firent pas, c'est qu'il ne faut jamais baiser une main masculine. Un jour, Athanase Doremus, le plus fortuné des mortels s'il en fut, leur dit « Voilà près de 2 ans que je suis à Standard Island et je regretterais qu'il n'y en eût pas 60 si l'on m'assurait que dans 60 ans j'y serais encore. » « Vous n'êtes pas dégoûté, » répond Pinchina, « avec vos prétentions à devenir centenaire. »« Eh, monsieur Pinchina, soyez sûr que j'atteindrai la centaine. Pourquoi voulez-vous que l'on meure à Standard Island ?»« Parce que l'on meurt partout. » »« Pas ici, monsieur. » Pas plus qu'on ne meurt dans le paradis céleste. Que répondra cela ? Cependant, il y avait bien, de temps à autre, quelques gens mal avisés qui passaient de vie à trépas, même sur cette île enchantée. Et alors les steamers emportaient leurs dépouilles jusqu'au cimetière lointain de Madeleine Bay. Décidément, il est écrit qu'on ne saurait être complètement heureux en ce bas monde. Pourtant, il existe toujours quelques points noirs à l'horizon. Il faut même le reconnaître, ces points noirs prennent peu à peu la forme de nuages fortement électrisés, qui pourront, avant longtemps, provoquer orages, rafales et bourrasques. Inquiétante cette regrettable rivalité des Tancardon et des Coverley. Rivalité qui approche de l'état aigu. Leurs partisans font cause commune avec eux. Est-ce que les deux sections seront un jour aux prises ? Est-ce que Millière City est menacée de troubles, d'émeutes, de révolutions ? Est-ce que l'administration aura le bras assez énergique et le gouverneur Sirius Bickerstaff la main assez ferme pour maintenir la paix entre ses Capulets et ses Montaigus d'une île à hélice ? On ne sait trop. Tout est possible de la part de rivaux dont l'amour-propre paraît être sans limite. Or, depuis la scène qui s'est produite au passage de la ligne, les deux milliardaires sont ennemis déclarés. Leurs amis les soutiennent de part et d'autre. Tout rapport a cessé entre les deux sections. Du plus loin qu'on s'aperçoit, on s'évite. Et si l'on se rencontre, quel échange de gestes menaçants, de regards farouches. Le bruit s'est même répandu que l'ancien commerçant de Chicago et quelques babordais allaient fonder une maison de commerce, qu'ils demandaient à la compagnie l'autorisation de créer une vaste usine, qu'ils y importeraient 100 000 porcs et qu'ils les abattraient, les saleraient et iraient les vendre dans les divers archipels du Pacifique. Après cela, on croira volontiers que l'hôtel Tancardon et l'hôtel Coverley sont deux poudrières. Il suffirait d'une étincelle pour les faire sauter. Standard Island avec. Or, ne point oublier qu'il s'agit d'un appareil flottant au-dessus des plus profonds abîmes. Il est vrai, cette explosion ne pourrait être que toute morale, s'il est permis de s'exprimer ainsi, mais elle risquerait d'avoir pour conséquence que les notables perdraient sans doute le parti de s'expatrier. Voilà une détermination qui compromettrait l'avenir, et très probablement, la situation financière de la Standard Island Company. Tout cela est gros de complications menaçantes, sinon de catastrophes matérielles. et qui sait même si ces dernières ne sont pas à redouter. En effet, peut-être les autorités, moins endormies dans une sécurité trompeuse, auraient-elles dû surveiller de près le capitaine Sarol et ses malais, si hospitalièrement accueillis à la suite de leur naufrage. Non pas que ces gens s'abandonnent à des propos suspects, étant peu loquaces, vivant à l'écart, se tenant en dehors de toute relation, jouissant d'un bien-être qu'ils regretteront dans leurs sauvages nouvelles hébrides. Y a-t-il donc lieu de les soupçonner? Oui et non. Toutefois, un observateur plus éveillé constaterait qu'ils ne cessent de parcourir Standard Island, qu'ils étudient sans cesse Midyear City, la disposition de ses avenues, l'emplacement de ses palais et de ses hôtels, comme s'ils cherchaient à enlever un plan exact. On les rencontre à travers le parc et la campagne. Ils se rendent fréquemment soit à bâbord Harbor, soit à tribord Harbor, observant les arrivées et les départs des navires. On les voit en de longues promenades explorer le littoral, où les douaniers sont jour et nuit de faction, et visiter les batteries disposées à l'avant et à l'arrière de l'île. Après tout, quoi de plus naturel? Ces malais désœuvrés peuvent-ils mieux employer le temps qu'en excursion? Et y a-t-il lieu de voir là quelques démarches suspectes? Cependant, le Commodore Simcoe gagne peu à peu vers le sud-ouest sous petite allure. Hibernès, comme si son être se fût transformé depuis qu'il est devenu un mouvant insulaire, s'abandonne au charme de cette navigation. Pinchina et Frascolin le subissent aussi. Que de délicieuses heures passées au casino, en attendant les concerts de quinzaine et les soirées où on se les dispute à prix d'or. Chaque matin, grâce aux journaux de Midyear City, approvisionnés de nouvelles fraîches par les câbles, et de faits divers datant de quelques jours par les steamers en service régulier, ils sont au courant de tout ce qui intéresse dans les deux continents, au quadruple point de vue mondain, scientifique, artiste, politique. Et à ce dernier point de vue, il faut reconnaître que la presse anglaise, de toute nuance, ne cesse de récriminer contre l'existence de cette île ambulante, qui a pris le Pacifique pour théâtre de ses excursions. Mais de telles récriminations, on les dédaigne à Standard Island, comme à la baie Madeleine. N'oublions pas de mentionner que depuis quelques semaines déjà, Sébastien Zorn et ses camarades ont pu lire, sous la rubrique des informations de l'étranger, que leur disparition a été signalée par les feuilles américaines. Le célèbre quatuor concertant, si fêté dans les États de l'Union, si attendu de ceux qui n'ont pas encore eu le bonheur de les posséder, ne pouvait avoir disparu, sans que cette disparition ne fît une grosse affaire. San Diego ne les a pas vus au jour indiqué, et San Diego a jeté le cri d'alarme. On s'est informé, et de l'enquête a résulté cette constatation, c'est que les artistes français étaient en cours de navigation à bord de l'île à hélice après un enlèvement opéré sur le littoral de la Basse-Californie. Somme toute, ils n'ont pas réclamé contre cet enlèvement. Il n'y a point eu échange de notes diplomatiques entre la compagnie et la République fédérale. Quand il plaira au quatuor de reparaître sur le théâtre de ses succès, il sera le bienvenu. On comprend que les deux violons et l'alto ont imposé silence au violoncelle, lequel n'eût pas été fâché d'être cause d'une déclaration de guerre qui eût mis aux prises le nouveau continent et le joyau du Pacifique. D'ailleurs, nos instrumentistes ont plusieurs fois écrit en France depuis leur embarquement forcé. Leur famille, rassurée, leur adresse de fréquentes lettres, et la correspondance s'opère aussi régulièrement que par les services postaux entre Paris et New York. Un matin, le 17 septembre, Frascolin, installé dans la bibliothèque du casino, éprouve le très naturel désir de consulter la carte de cet archipel des Pomotou, vers lequel il se dirige. Dès qu'il a ouvert l'atlas, dès que son œil s'est porté sur ces parages de l'océan Pacifique, « 1000 chanterelles » s'écrie-t-il, en monologuant. « Comment est-elle Simcoe fera-t-il pour se débrouiller dans ce chaos? Jamais il ne trouvera passage à travers cet amas d'îlots et d'îles. Il y en a des centaines. Un véritable tas de cailloux au milieu d'une mare. Il touchera, il s'échouera. Il accrochera sa machine à cette pointe, il la crèvera sur cette autre. Nous finirons par demeurer à l'état sédentaire dans ce groupe, plus fourmillant que notre morbihan de la Bretagne. » Il a raison, le raisonnable Frascolin. Le Morbihan ne compte que 365 îles, autant que deux jours dans l'année, et sur cet archipel des Pomotou, on ne serait pas gêné d'en relever le double. Il est vrai, la mer qui les baigne est circonscrite par une ceinture de récifs collarigènes, dont la circonférence n'est pas inférieure à 650 lieues, suivant Élisée Reclus. Néanmoins, en observant la carte de ce groupe, il est permis de s'étonner qu'un navire, et a fortiori un appareil marin tel que Standard Island, osent s'aventurer à travers cet archipel. Compris entre les 17e et 28e parallèles sud, entre les 134e et 147e méridiens est, il se compose d'un millier d'îles et d'îlots. On a dit 700 au jugé, depuis Mataïva jusqu'à Pitcairn. Il n'est donc pas surprenant que ce groupe ait reçu diverses qualifications, entre autres celle d'archipel dangereux ou de mer mauvaise. Grâce à la prodigalité géographique dont l'océan Pacifique a le privilège, il s'appelle aussi île basse, île Tuamotu, ce qui signifie île éloignée, île méridionale, île de la nuit, terre mystérieuse. Quant au nom de Pomotu, ou Pomotu, qui signifie île soumise, une députation de l'archipel, réunie en 1850 à Papeete, la capitale de Tahiti, a protesté contre cette dénomination. Mais quoique le gouvernement français, déférant en 1852 à cette protestation, ait choisi entre tous ces noms celui de Tuamotu, mieux vaut garder en ce récit l'appellation plus connue de Pomotu. Cependant, si dangereuse que puisse être cette navigation, le commodore Simcoe n'hésite pas. Il a une telle habitude de ces mers que l'on peut s'en fier à lui. Il manœuvre son île comme un canot. Il la fait virer sur place. On dirait qu'il la conduit à la godille. Frascolin peut être rassuré pour Standard Island. Les pointes de Pomotu n'effleureront même pas sa carène d'acier. Dans l'après-midi du 19, les vigies de l'observatoire ont signalé les premiers émergements du groupe à une douzaine de milles. En effet, ces îles sont extrêmement basses. Si quelques-unes dépassent le niveau de la mer d'une quarantaine de mètres, 74 ne sortent que d'une demi-toise et seraient noyées deux fois par 24 heures si les marées n'étaient pas à peu près nulles. Les autres ne sont que des atolls, entourés de brisants, de bancs coralligènes, d'une aridité absolue, de simples récifs, régulièrement orientés dans le même sens que l'archipel. C'est par l'est que Standard Island attaqua le groupe, afin de rallier l'île Anaa, que Fakarava a remplacée comme capitale, depuis qu'Anaa a été en partie détruite par le terrible cyclone de 1878, lequel fit périr un grand nombre de ses habitants et porta ses ravages jusqu'à l'île de Kokura. C'est d'abord Evaitai, qui est relevée à 3000 au large. Les précautions les plus minutieuses sont prises dans ces parages, les plus dangereux de l'archipel, à cause des courants et de l'extension des récifs vers l'est. Vaitai n'est qu'un amoncellement de corail, flanqué de 3 îlots boisés, dont celui du nord est occupé par le principal village. Le lendemain, on aperçoit l'île d'Akiti, avec ses récifs tapissés de prionia, de pourpier, d'une herbe rampante à teinte jaunâtre, de bourrage velu. Elle diffère des autres en ce qu'elle ne possède pas de lagon intérieur. Si elle est visible d'une assez grande distance, c'est que sa hauteur, au-dessus du niveau océanique, est supérieure à la moyenne. Le jour suivant, une île un peu plus importante, Amanu, dont le lagon est en communication avec la mer par deux passes de la côte nord-ouest. Tandis que la population millardaise ne demande qu'à se promener indolemment au milieu de cet archipel, qu'elle a visité l'année dernière, se contentant d'admirer ses merveilles au passage, Pinchina, Frascolin, Iverness se seraient fort accommodés de quelques relâches, pendant lesquelles ils auraient pu explorer ces îles dues au travail des polypiers, c'est-à-dire artificielles, comme Standard Island. Seulement, en fait observer le commodore Simcoe, la nôtre a la faculté de se déplacer. Elle l'est trop, réplique Pinchina, puisqu'elle ne s'arrête nulle part. Elle s'arrêtera aux îles Ao, Anaa, Fakarava, et vous aurez, messieurs, tout le loisir de les parcourir. Interrogée sur le mode de formation de ces îles, Ethel Simcoe se range à la théorie la plus généralement admise. C'est que dans cette partie du Pacifique, le fond sous-marin a dû graduellement s'abaisser d'une trentaine de mètres. Les zoophytes, les polypes, ont trouvé sur ces sommets immergés une base assez solide pour établir leur construction de corail. Peu à peu, ces constructions se sont étagées grâce au travail de ces infusoires qui ne sauraient fonctionner à une profondeur plus considérable. Elles ont monté à la surface, elles ont formé cet archipel, dont les îles peuvent se classer en barrières, franges et atelions, ou plutôt atolls, nom indien de celles qui sont pourvues de lagons intérieurs. Puis des débris, rejetés par les lames, ont formé un humus. Des graines ont été apportées par les vents. La végétation est apparue sur ces anneaux coralligènes. La marge calcaire s'est revêtue d'herbes et de plantes, hérissée d'arbustes et d'arbres, sous l'influence d'un climat intertropical. Et qui sait, dit Hivernes dans un élan de prophétique enthousiasme, qui sait si le continent, qui fut englouti sous les eaux du Pacifique, ne reparaîtra pas un jour à sa surface, reconstruit par ces myriades d'animalcules microscopiques. Et alors, sur ces parages actuellement sillonnés par les voiliers et les steamers, fileront à toute vapeur des trains express, qui relieront l'ancien et le nouveau monde. « des manches, mon vieil Isaïe !» répliquent ces irrespectueux de Pinchina. Ainsi que l'avait dit le commodore Simcoe, Standard Island vient s'arrêter le 23 septembre devant l'île d'Ao, qu'elle a pu approcher d'assez près par ses grands fonds. Ses embarcations y conduisent quelques visiteurs à travers la passe qui, à droite, s'abrite sous un rideau de cocotiers. Il faut faire 5 milles pour atteindre le principal village, situé sur une colline. Ce village ne compte guère que 200 à 300 habitants, pour la plupart pêcheurs de nacre, employés comme tels par des maisons tahitiennes. Là abondent ces pandanus et ces myrtes miki-miki, qui furent les premiers arbres d'un sol, où poussent maintenant la canne à sucre, l'ananas, le taro, le prionia, le tabac, et surtout le cocotier, dont les immenses palmeraies de l'archipel contiennent plus de 40 000. On peut dire que cet arbre providentiel réussit presque sans culture. Sa noix sert à l'alimentation habituelle des indigènes, étant bien supérieure en substances nutritives aux fruits du pandanus. Avec elle, ils engraissent leurs porcs, leurs volailles et aussi leurs chiens, dont les côtelettes et les filets sont particulièrement goûtés. Et puis la noix de coco donne encore une huile précieuse, quand râpée, réduite en pulpe, séchée au soleil, elle est soumise à la pression d'une mécanique assez rudimentaire. Les navires emportent des cargaisons de ces copras sur le continent, où les usines les traitent d'une façon plus fructueuse. Ce n'est pas à Ao qu'il faut juger de la population pomotouane. Les indigènes y sont trop peu nombreux. Mais où le quatuor a pu l'observer avec quelque avantage, c'est à l'île d'Anaa, devant laquelle Standard Island arrive le matin du 27 septembre. Anaa n'a montré que d'une courte distance ses massifs boisés d'un superbe aspect. L'une des plus grandes de l'archipel, elle compte 18 milles de longueur sur 9 de largeur, mesurée à sa base madréporique. On a dit qu'en 1878, un cyclone avait ravagé cette île, ce qui a nécessité le transport de la capitale de l'archipel à Fakarava. Cela est vrai. Bien que sous ce climat si puissant de la zone tropicale, il était présumable que la dévastation se réparerait en quelques années. En effet, redevenue aussi vivante qu'autrefois, Anaa possède actuellement 1500 habitants. Cependant, elle est inférieure à Fakarava, sa rivale, pour une raison qui a son importance. C'est que la communication entre la mer et le lagon ne peut se faire que par un étroit chenal, sillonné de remous de l'intérieur à l'extérieur, dû à la surélévation des eaux. À Fakarava, au contraire, le lagon est desservi par 2 larges passes au nord et au sud. Toutefois, nonobstant que le principal marché d'huile de coco ait été transporté dans cette dernière île, Anaa, plus pittoresque, attire toujours la préférence des visiteurs. Dès que Standard Island a pris son poste de relâche dans d'excellentes conditions, nombre de milliardais se font transporter à terre. Sébastien Zorn et ses camarades sont des premiers, le violoncelliste ayant accepté de prendre part à l'excursion. Tout d'abord, ils se rendent au village de Tuaora. Après avoir étudié dans quelles conditions s'était formée cette île, formation commune à toutes celles de l'archipel, ici la marge calcaire, la largeur de l'anneau si l'on veut, est de 4 à 5 mètres, très accord du côté de la mer, en pente douce du côté du lagon, dont la circonférence comprend environ 100 milles, comme à Rairoa et à Fakarava. Sur cet anneau sont massés des milliers de cocotiers, principales, pour ne pas dire unique richesse de l'île, et dont les frondaisons abritent les huttes indigènes. Le village de Tuaora est traversé par une route sablonneuse, éclatante de blancheur. Le résident français de l'archipel n'y demeure plus depuis qu'Anaa a été déchu de son rôle de capitale. Mais l'habitation est toujours là, protégée par une modeste enceinte. Sur la caserne de la petite garnison, confiée à la garde d'un sergent de marine, flotte le drapeau tricolore. Il y a lieu d'accorder quelques éloges aux maisons de Tuaora. Ce ne sont plus des huttes, ce sont des cases confortables et salubres, suffisamment meublées, posées pour la plupart sur des assises de corail. Les feuilles du pandanus leur ont fourni la toiture. Le bois de ce précieux arbre a été employé pour les portes et les fenêtres. Ça et là les entourent des jardins potagers que la main de l'indigène a remplis de terre végétale et dont l'aspect est véritablement enchanteur. C'est naturel d'ailleurs, S'ils sont d'un type moins remarquable avec leur teint plus noir, s'ils ont la physionomie moins expressive, le caractère moins aimable que ceux des îles Marquises, offrent encore de beaux spécimens de cette population de l'Océanie équatoriale. En outre, travailleurs intelligents et laborieux, peut-être opposeront-ils plus de résistance à la dégénérescence physique qui menace l'indigénat du Pacifique. Leur principale industrie, ainsi que Frascolin put le constater, c'est la fabrication de l'huile de coco. De là, cette quantité considérable de cocotiers plantés dans les palmeraies de l'archipel. Ces arbres se reproduisent aussi facilement que les excroissances coralligènes à la surface des atolls. Mais ils ont un ennemi, et les excursionnistes parisiens l'ont bien reconnu, un jour qu'ils s'étaient étendus sur la grève du lac intérieur, dont les vertes eaux contrastent avec l'azur de la mer environnante. À un certain moment, voici que leur attention d'abord, leur horreur ensuite, est provoquée par un bruit de reptation entre les herbes. Qu'aperçoivent-ils ? Un crustacé de grosseur monstrueuse. Leur premier mouvement est de se lever. Le second, de regarder l'animal. « La vilaine bête !» s'écrie Vernès. « C'est un crabe !» répond Frascolin. Un crabe, en effet. Ce crabe qui est appelé « birgo » par les indigènes, et dont il y a un grand nombre sur ces îles. Ses pattes de devant forment de solides tenailles, ou cisailles, avec lesquelles il parvient à ouvrir les noix, dont il fait sa nourriture préférée. Ces birgos vivent au fond de sortes de terriers, profondément creusés entre les racines, où ils entassent des fibres de coco en guise de litière. Pendant la nuit, plus particulièrement, ils vont à la recherche des noix tombées. Et même ils grimpent aux troncs et aux branches de cocotiers afin d'en abattre les fruits. Il faut que le crabe en question ait été pris d'une faim de loup, comme dit Pinchina, pour avoir quitté en plein midi sa sombre retraite. On laisse faire l'animal, car l'opération promet d'être extrêmement curieuse. Il avise une grosse noix au milieu des broussailles. Il en déchire peu à peu les fibres avec ses pinces. Puis, lorsque la noix est à nu, il attaque la dure écorce, la frappant, la martelant au même endroit. Ouverture faite, le birgo retire la substance intérieure en employant ses pinces de derrière, dont l'extrémité est fort amincie. Il est certain, observe Vernès, que la nature a créé ce birgo pour ouvrir des noix de coco. Et qu'elle a créé la noix de coco pour nourrir le birgo, ajoute Frascolin. Eh bien, si nous contrarions les intentions de la nature en empêchant ce crabe de manger cette noix, et cette noix d'être mangée par le crabe, propose Machina. Je demande qu'on ne le dérange pas, dit Vernès. Ne donnons pas, même à un birgo, une mauvaise idée des Parisiens en voyage. On y consent, et le crabe, qui a sans doute jeté un regard courroucé sur son Altesse, adresse un regard de reconnaissance au premier violon du quatuor concertant. Après 60 heures de relâche devant Anaa, Sandar Island suit la direction du nord. Elle pénètre à travers le fouillis des îlots et des îles, dont le commodore Simcoe descend le chenal avec une parfaite sûreté de main. Il va de soi que, dans ces conditions, Milliar City est un peu abandonnée de ses habitants au profit du littoral, et plus particulièrement de la partie qui avoisine la batterie de l'éperon. Toujours des îles en vue, ou plutôt de ces corbeilles verdoyantes qui semblent flotter à la surface des eaux. On dirait un des marchés aux fleurs sur un des canaux de la Hollande. De nombreuses pirogues louvoient aux approches des deux ports, mais il ne leur est pas permis d'y entrer, les agents ayant reçu des ordres formels à cet égard. Nombre de femmes indigènes viennent à la nage, lorsque l'île mouvante range à courte distance les falaises madréporiques. Si elles n'accompagnent pas les hommes dans leurs canots, c'est que ces embarcations sont tabouées pour le beau sexe pomotant et qu'il lui est interdit d'y prendre place. Le 4 octobre, Standard Island s'arrête devant Fakarava, à l'ouvert de la passe du Sud. Avant que les embarcations débordent pour transporter les visiteurs, le résident français s'est présenté à Tribord Harbor, d'où le gouverneur a donné l'ordre de le conduire à l'hôtel municipal. L'entrevue est très cordiale. Sirius Bickerstaff a sa figure officielle, celle qui lui sert dans les cérémonies de ce genre. Le résident, un vieil officier de l'infanterie de marine, n'est pas en reste avec lui. Impossible d'imaginer rien de plus grave, de plus digne, de plus convenable, de plus en bois, de part et d'autre. La réception terminée, le résident est autorisé à parcourir Milliar City, dont Callistus Munbar est chargé de lui faire les honneurs. En leur qualité de Français, les Parisiens et Athanase de Rémus ont voulu se joindre au surintendant. Et c'est une joie pour ce brave homme de se retrouver avec des compatriotes. Le lendemain, le gouverneur va à Fakarava rendre au vieil officier sa visite, et tous les deux reprennent leur figure de la veille. Le quatuor, descendu à terre, se dirige vers la résidence. C'est une très simple habitation, occupée par une garnison de 12 anciens marins, au mât de laquelle se déploie le pavillon de la France. Bien que Fakarava soit devenue la capitale de l'archipel, on l'a dit, elle ne vaut point sa rivale Anaa. Le principal village n'est pas aussi pittoresque sous la verdure des arbres, et d'ailleurs, les habitants y sont moins sédentaires. En outre, la fabrication de l'huile de coco, dont le centre est à Fakarava, il se livre à la pêche des huîtres perlières. Le commerce de la nacre qu'il retire de cette exploitation les oblige à fréquenter l'île voisine de Toho, spécialement outillée pour cette industrie. Hardis plongeurs, ces indigènes n'hésitent pas à descendre jusqu'à des profondeurs de 20 et 30 mètres, habitués qu'ils sont à supporter de telles pressions, sans être incommodés, et à garder leur respiration plus d'une minute. Quelques-uns de ces pêcheurs ont été autorisés à offrir les produits de leur pêche, nacre ou perles, aux notables de Milliard City. Ce ne sont point les bijoux qui manquent aux opulentes dames de la ville. Mais ces productions naturelles, à l'état brut, on ne trouve pas à se les procurer facilement, et l'occasion se présentant, les pêcheurs sont dévalisés à des prix invraisemblables. Du moment que Madame Tancardon achète une perle de grande valeur, il est tout indiqué que Madame Coverley suive son exemple. Par bonheur, il n'y eut pas lieu de surenchérir sur un objet unique, car on ne sait où les surenchères se fussent arrêtées. D'autres familles prennent à cœur d'imiter leurs amis, et ce jour-là, comme on dit en langage maritime, les Fakaraviens furent une bonne marée. Après une dizaine de jours, le 13 octobre, le joyeux du Pacifique appareille dès les premières heures. En quittant la capitale des Pomotou, elle atteint la limite occidentale de l'archipel. De l'invraisemblable encombrement d'îles et d'îlots, de récifs et d'atolls, le commodore Simcoe n'a plus à se préoccuper. Il est sorti, sans un accroc, de ces parages de la mer mauvaise. Au large s'étend cette portion du Pacifique qui, sur un espace de 4 degrés, sépare le groupe des Pomotou du groupe de la Société. C'est en mettant le cap au sud-ouest que Standard Island, mu par les 10 millions de chevaux vapeur de ses machines, se dirige vers l'île, si poétiquement célébrée par Bougainville, l'enchanteresse Tahiti.